IDFM, Radio Anguin.
Vous écoutez IDFM, il est 11h.
Déjà la rue s'éveille, c'est le lit qui bonjour. Le soleil aux merveilles sublime les faubourgs.
Bonjour mon père, ma mère.
Bonjour mes chers enfants.
Bonjour monsieur le maire.
Bonjour madame Durand.
Good morning Mr. Kane.
Buongiorno signora.
Bonjour Bella Tanière.
Bonjour Calimera.
C'est le matin, ça chante sous le soleil tout neuf. Qui glisse sur la pente, tout est frais comme un œuf. Et la moitié du monde dans la fraîcheur du jour se salue à la ronde. Calimera, bonjour. Pourquoi ces mots qui naguère avaient un sens très précis d'accueillir de joie sincère ces mots qui disaient merci? Ne sont-ils plus que formules? Nos bonjours, sec protecteurs, distraits, pincés, ridicules, sont toujours pauvres de cœur.
Bonsoir, le jour décline, le vieux soleil s'en va. Bonsoir.
Good evening.
Bonsoir.
Buonasera.
La journée est finie.
Les ateliers fermés.
Oh, que c'est bon la vie dans le soir embaumé. Bonsoir, cher baron.
Bonsoir, mon général.
Oui, bonsoir, c'est la bonne.
Et bonsoir, Marie Chantal.
Tandis qu'outre Starine, Frau Professeur König, dans sa langue divine lance un
Good napic. Mais le peuple hellénique, assis sur l'agora, salut. Le ciel atlique, bonsoir Calispera. Pourquoi ces mots qui naguère avaient un sens très précis d'accueillir de joie sincère ces mots qui disaient merci? Ne sont-ils plus que formules? Nous bonsoir, sec protecteurs, distraits, pincés, ridicules, sont toujours pauvres de cœur.
Déjà la rue se vide sous les lampions éteints, et dans l'ombre languide minuit sonne au lointain.
À l'hôtel de la lune, des couples enflammés s'en vont chercher fortune. Bonne nuit, bien-aimée.
Bonne nuit, Tourterelle.
Good night, Romeo.
Dorothée, Isabelle.
Il a beau, mais Julot.
Bonne nuit, juge intègre. Votre bourreau demain pendra le pauvre nègre. Bonne nuit, dormez bien.
Petits enfants, poète. Belle señorita. Buenas noches.
Good night.
En grec,
kalinikta. Si ces mots étaient sincères, tout changerait à l'instant. Bonjour les gens de la terre, bonsoir, bonne année, bon vent. Ça ferait une telle somme d'amitié, je vous le dis, que ce vieux berceau des hommes pourrait, comme avant la pomme, devenir un paradis.
Bonjour voisins, spécial animaux aujourd'hui, je suis Brigitte Gauthière, une des porte-parole de l'association L214 qui vous accompagnera une fois par mois pour cette émission un petit peu spéciale, concentrée sur des voisins qui nous sont proches, les animaux, souvent malmenés par les êtres humains ou parfois choyés. Et aujourd'hui nous nous intéresserons au sort des lapins. Les lapins qui peuvent être de compagnie, choyés mais souvent enfermés, ou lapins utilisés dans l'expérimentation animale comme modèle pour l'homme, notamment dans la préparation des cosmétiques, les lapins qui sont chassés, les lapins qui sont élevés pour leur viande et les lapins élevés pour leur fourrure. Et pour cela, je reçois aujourd'hui Stéphanie Rossenu, qui est fondatrice de Société Antifourrure, qui mène en France la campagne France sans fourrure.
Bonjour Brigitte, merci.
Et nous allons commencer par une histoire insolite qui va nous faire découvrir deux lapins, des histoires que je ferai à chaque émission, qui nous permettront d'appréhender autrement les animaux, de nous rendre compte qu'ils ne sont pas des machines, qu'ils ne sont pas limités à leur instinct. Comme nous, ils ressentent des émotions. Et voici une histoire vraie qui date de l'été dernier, relatée par le Dauphiné libéré. Cette histoire se déroule dans la Drôme. Deux lapins, nommés Pimpin et Pimpinette, y vivent ensemble depuis 5 ans. Mais voilà qu'un jour, Pimpinette est placée dans un nouveau foyer, à 20 km de Pimpin. Quelques semaines passent et la lapine disparaît, pour être retrouvée quelques jours plus tard auprès de Pimpin. 20 km. Une véritable aventure que la force de l'amitié et de l'affection a rendue possible pour cette lapine. Une histoire qui finit bien, puisque les deux amis sont réunis pour la vie maintenant, leur propriétaire ayant décidé de les garder ensemble. C'est une histoire qui nous montre combien les liens sociaux entre les animaux peuvent être forts. Fort de ce témoignage, nous allons nous intéresser aux moins chanceux des lapins. Avec L214, tout d'abord, nous nous sommes intéressés au sort de ces quelques 40 millions de lapins qui sont élevés pour leur viande dans les élevages professionnels. Et nous sommes allés en enquête. Nous avons poussé les portes des élevages et des abattoirs. Nous avons recoupé les infos recueillies dans des livres, dans des magazines, souvent édités par les professionnels, et la réalité du terrain. Avez-vous une image en tête de l'élevage de lapins ? Sans doute celle de votre grand-mère qui élevait quelques lapins dans des clapiers fournis en paille, où les lapins n'avaient certes pas trop de place, étaient souvent à l'extérieur ou alors au fond d'une grange, sans beaucoup de possibilités de bouger. Savez-vous qu'aujourd'hui on fait pire ? On fait pire. Aujourd'hui, en France, les 40 millions de lapins élevés pour leur viande vivent dans des cages sur un sol grillagé, qui est source d'inconfort permanent et de blessures aux pattes. Ces conditions d'enfermement s'appliquent aussi aux lapins commercialisés sous les appellations plein air et semi-plein air. Plein air, en fait, les cages sont placées à l'extérieur. Semi-plein air, il y a des ouvertures sur les côtés et donc ils ont l'air de l'extérieur qui vient jusqu'à eux. Les élevages aujourd'hui professionnels comptent en moyenne plus de 6000 animaux ainsi enfermés dans des cages. Alors dans des cages à plusieurs, c'est-à-dire que les lapines peuvent passer du temps toutes seules, les lapines reproductrices, mais les lapins élevés pour leur chair, eux, sont dans des cages qui sont bondées. Ils sont à 7, 8, 9 dans ces cages et disposent de peu de place. En fait, la surface d'une feuille de papier A4, les papiers standards des courriers qu'on reçoit, c'est la surface qu'ils ont par lapin durant toute leur vie. Certes, leur vie ne dure pas très longtemps, puisque à 72 jours, pour la plupart, ils sont menés à l'abattoir. Ces cages, en plus d'être assez réduites au niveau de la taille au sol, donc qui ne leur permettent pas de se déplacer sans se déranger les uns les autres, ont une hauteur limitée. Cette hauteur ne leur permet pas, par exemple, de se dresser, comportement habituel chez les lapins, notamment pour donner l'alerte aux autres. Dans ces cages, il leur est impossible de se dresser, de bondir, de ronger, de fuiner ou de se cacher. En phase d'engraissement, le moindre déplacement dérange les autres lapins et du coup, les agressions sont fréquentes, occasionnant là aussi blessures et infections. Dans ces conditions, presque un tiers des lapines meurent chaque année. Elles vivent isolées les unes des autres et sont inséminées 10 jours après chaque mise bas. Elles donnent naissance à une dizaine de petits par portée, plus d'une soixantaine par an. Elles souffrent bien sûr de lésions aux pattes et de déformations du squelette. Leurs lapros n'ont guère plus de chance en fait. Il y en a 25% qui meurent avant l'âge d'être abattus. Par exemple, juste à la naissance, en fait, vous avez 7 lapros sur 100 qui sont éliminés. Les petits à la naissance, donc la lapine donne naissance à 10 lapros, et en fait, on les trie de façon à en laisser 8 ou 9 sous chaque lapine. Les malades, les plus petits et ceux en surnombre sont assommés sur le rebord d'une caisse et ensuite ils agonisent au milieu des autres morts-nés. Les lapros sont sevrés et séparés de leur mère à un petit peu plus d'un mois. Nous nous sommes intéressés au temps consacré par l'éleveur à chaque lapin. Et en fait, c'est très peu. On a moins de 5 minutes passées pour un lapin sur toute sa vie. Évidemment, quand vous avez 500 cages mères dans un élevage, vous ne pouvez pas y passer tant de temps que ça. Et c'est de l'élevage. L'éleveur aujourd'hui est un technicien d'ambiance. Il vient s'assurer que la température est bonne, que de l'eau arrive, qu'il y a de la nourriture. Mais il ne peut évidemment pas prendre chaque lapin dans ses bras ou il ne peut pas s'intéresser au sort de chaque lapin. Et c'est comme ça qu'effectivement, les lapins qui sont des êtres très fragiles, un quart d'entre eux meurent avant l'âge d'être abattus. Et puis, bien sûr, la fin de la vie des lapins, ceux qui ont survécu en tout cas, se termine à l'abattoir où les lapins sont sommairement assommés avec leur fourrure, l'étourdissement qui se passe par électronarcose, c'est-à-dire qu'on envoie un courant électrique au lapin pour l'assommer, ne se passe pas toujours bien et de nombreux lapins reprennent conscience pendant la saignée. Voilà comment se passe la vie des lapins.
Animal rights protesters have broken into another research unit controlled by Oxford University.
of all animal research is never, ever useful.
You have to ask yourself, why are some of these groups going to these extremes?
Nous sommes le jour J. Tu t'apprêtes à enfreindre la loi.
The animal liberation movement is a compassionate movement. It's made up of people who really care and who are very willing to put their lives and freedom on the line to save animals.
C'était Le jour J, un morceau de la bande originale du film ALF, un film de Jérôme Lescure sorti en salle en fin d'année dernière mais qu'on peut voir encore actuellement dans certaines salles. On peut voir les dates de diffusion sur le site internet ALF Le Film. Et nous allons reprendre, donc je vous ai expliqué les conditions de vie des lapins élevés pour leur chair, mais évidemment avec les lapins, il y a la chair, mais il y a aussi la fourrure. Et on va parler de ces vies qui ressemblent à celles des lapins élevés pour leur fourrure, avec Stéphanie Rossénu, donc fondatrice du collectif Société Anti-Fourrure, qui mène actuellement en France la campagne France sans fourrure. Donc Stéphanie, pourquoi ce collectif ?
Alors ce collectif a été créé en 2006. Avec en fait l'Anti-Fur Society aux États-Unis qui nous envoyait du matériel, des supports pour faire des actions de rue, des manifestations contre la fourrure. Et puis il y a environ 2 ans, disons 1 an et demi, nous avons créé la campagne France sans fourrure dans le but de convaincre les marques de prêt-à-porter d'en finir avec la fourrure. Donc on leur écrit, on leur téléphone, on écrit aussi au siège, on leur envoie des vidéos, on leur explique ce qu'est la fourrure. Donc on a eu quelques victoires avec la marque Etam, qui n'a pas hésité à retirer ses articles en fourrure il y a 2 ans. Bon, Etam avait refait un petit peu de fourrure il y a quelques temps, donc on les a de nouveau contactés, ils ont de nouveau retiré tous leurs articles en fourrure, disant qu'il s'agissait d'une erreur, donc c'est quand même une marque qui se veut éthique. On a réussi aussi avec Kiabi, Nafnaf, et la dernière victoire en date, c'est la marque Morgane, qui donc nous a envoyé un communiqué de presse en avril dernier, nous disant qu'il ne ferait plus de fourrure, Et effectivement, il n'y a plus que de la fourrure synthétique chez Morgane, très bien imitée, mais synthétique.
D'accord, mais la fourrure, c'est pas un peu has-been en fait ?
Malheureusement pas. C'est pas has-been par rapport au fait qu'il y a énormément de fourrure de Chine. En fait, les marques s'approvisionnent avec la fourrure de Chine parce que c'est moins cher, hein, tout simplement. Donc cette année, il y a une recrudescence, on en voit partout. Souvent sous étiquette mensongère qui indique synthétique alors qu'il s'agit très probablement de vraies fourrures, hein, ou qui n'indique rien du tout, hein. Les étiquettes des fois n'indiquent même pas de quelle fourrure il s'agit, hein. Voilà, donc ça c'est ça pullule cette année, il y en a encore plus.
Et comment on peut reconnaître justement quand de bonne foi par exemple l'aspect de la fourrure peut plaire et puis on voudrait bien quand même quelque chose qui imite, comment on peut savoir si c'est de la vraie ou de la fausse?
Alors la vraie fourrure en fait elle est reconnaissable par le fait que par exemple, les capuches sont formées par plusieurs couches de poils fins qui forment une sous-couche, d'où dépassent les poils les plus longs. C'est-à-dire que c'est pas régulier. Alors que la fausse fourrure, le poil est épais et à la même épaisseur sur toute la longueur. Mmh. On voit bien que c'est pas un poil naturel.
D'accord. Donc a priori, pas très compliqué quand même de s'y retrouver. Bien que je pense que quand c'est neuf, on doit pouvoir s'y laisser prendre, non ?
Alors, par exemple, la marque H&M fait de la fausse fourrure qui est très très bien imitée. De loin, on croirait que c'est de la vraie fourrure. Mais lorsqu'on s'approche de près et qu'on examine bien le poil, il est pareil de la base jusqu'au bout. C'est le même poil, il a la même épaisseur. C'est comme ça qu'on reconnaît. Alors que la vraie fourrure ne peut pas être la même à la base et au niveau de la longueur du poil, l'épaisseur n'est absolument pas la même.
D'accord.
Et la bastanée résiste aux épingles, c'est pas du tout pareil en fait.
D'accord, résiste aux épingles. Et j'avais entendu une histoire aussi avec brûler un petit morceau pour savoir...
Tout à fait, oui. Alors l'odeur en fait d'un poil brûlé est similaire à celle d'un cheveu brûlé. Mm-hmm. Alors que lorsqu'il s'agit de fourrure synthétique, l'odeur, c'est l'odeur du caoutchouc brûlé. Mm-hmm. Donc pas pareil.
D'accord, soit on sent le pneu brûlé, soit le poil brûlé.
Voilà.
Combien ça concerne d'animaux chaque année dans le monde ?
Malheureusement, ça concerne un petit peu plus de 50 millions donc d'animaux massacrés dans le monde chaque année pour leur fourrure. Il y a 20 millions d'animaux qui sont pris au piège accidentellement, donc dans les pièges posés par les trappeurs. Donc ça concerne des animaux domestiques, ça concerne des oiseaux. Donc c'est quand même un chiffre qui est énorme. Et ce sont des animaux déchets, terme employé par les trappeurs.
Voilà, oui, parce qu'ils vont pas servir du tout pour faire de la fourrure.
Exactement.
Ils sont attrapés accidentellement,
voilà.
Et du coup, poubelle directement.
Exactement.
Mmh, mmh. En France, le piégeage est marginal.
En France, ce sont plutôt des élevages. Voilà. Élevage de vison, élevage de lapins également. Donc, élevage de lapins Henri Lag, hein, on en a à peu près une vingtaine en France. Il y a des élevages de visons aussi, notamment à Emani, dans le Doubs. Nous sommes allés manifester en janvier 2012 contre un élevage qui est complètement en infraction, en plus par rapport aux conditions des animaux là-bas dans les cages. Et il est question de retourner manifester là-bas avec donc l'association Combactive au mois d'avril prochain.
Mmh, oui, oui, une manifestation qui a été annoncée d'ailleurs à l'occasion de la manifestation à Ghana
oui.
Le week-end dernier. Effectivement, ça se prépare pour le mois d'avril. La date n'est pas fixée encore, mais ça devrait pas tarder.
Voilà.
Qu'est-ce qui distingue l'élevage, par exemple, des lapins Henri Lag, donc qui font d'un côté de la viande Rex du Poitou et de l'autre côté la fourrure Henri Lag, des élevages de lapins que j'ai décrits tout à l'heure?
En fait, les élevages de lapins Henri Lag, donc la fourrure c'est de la fourrure de luxe en fait, donc qui est destinée aux créateurs, aux grands créateurs comme Fendi, Hermès, Dior, Chanel. Donc c'est une fourrure particulièrement douce et soyeuse. Et donc l'Henri Lag a deux brevets, un pour la viande, un pour la fourrure. Mmh. Voilà, et il est dit aussi que la viande est de très très bonne qualité. Il s'agit de lapins Henri Lag.
Mais ces lapins Henri Lag sont pas élevés très différemment des lapins élevés pour leur chair?
Absolument pas. Ce sont les mêmes conditions intensives, les mêmes conditions de souffrance physique et psychologique. En plus, on isole les lapins afin que leur peau ne soit pas abîmée. Bon, et le lapin est un animal très sociable qui supporte très mal l'isolement, qui supporte très mal d'être seul en cage. En plus. Et puis ce sont des cages grillagées pour ne pas que la fourrure soit souillée par les excréments. Mmh. Donc, c'est des conditions. C'est exactement les mêmes en fait. C'est de la fourrure de luxe peut-être, mais les conditions de vie et de mort des animaux n'ont absolument rien de luxueux. C'est les mêmes que dans tous les élevages intensifs.
Oui, voilà, on est de nouveau dans de l'élevage intensif.
Complètement.
De nouveau, les besoins fondamentaux des animaux.
Complètement bafoués, hein, complètement ignorés. Ouais.
Mmh. Et il y a des pays qui ont interdit l'élevage.
Alors, l'Autriche a interdit les élevages à fourrure, l'Angleterre et les Pays-Bas viennent de voter pour cette interdiction. Donc désormais, les élevages d'animaux à fourrure, puisque l'interdiction prendra effet en 2024 seulement. Mais en tout cas, ce pays vient de voter contre les élevages d'animaux pour la fourrure. Mais malheureusement, le bémol, c'est encore 11 ans pour les animaux, encore 11 ans de souffrance donc dans les élevages là-bas à fourrure.
Mm-hmm. Pour les élevages à fourrure en Autriche, je me rappelle que le premier pas qui avait été fait, c'était d'interdire justement l'enfermement dans des petites cages et de laisser aux visons la possibilité d'avoir accès à un point d'eau, ce qui en fait a sonné le glas de l'industrie de la fourrure.
Oui, voilà, tout
pour
à fait.
Quoi.
Ouais. Donc, et donc ce pays a été donc un des premiers avec l'Angleterre à interdire les élevages à fourrure. Voilà. Okay. C'est le morceau Libération, toujours tiré de la bande originale du film ALF, un film de Jérôme Lescure, une musique originale de René-Marc Bigny avec les paroles de Tribunal Animal, film sorti à la fin de l'année dernière
et qu'on peut on peut retrouver les dates de projection sur alf-lefilm.com. On reprend avec Stéphanie sur les campagnes actuelles de Société Antifourrure. Donc Stéphanie, dis-nous-en un petit peu plus sur le combat actuel de ton association.
La cible actuelle de la campagne France sans fourrure, donc la cible actuelle, mais enfin la cible depuis quand même un petit peu plus d'un an, c'est la marque Koukaï. Donc tous les mois, nous allons manifester devant une des boutiques Koukaï, où se trouve également le bureau de presse, afin de convaincre cette marque donc d'en finir avec la fourrure. Donc on vient avec une vidéo des souffrances endurées par les animaux pour la fourrure. On distribue des tracts également informatifs au public. On a des supports également, voilà. Donc il faut savoir que la marque Koukaï en février dernier avait, disons, décidé, selon ses dires, d'en finir avec la fourrure. La responsable de la boutique est venue nous voir donc à la fin de l'une de nos manifestations pour nous remercier, qu'on les avait informés sur des choses qu'effectivement ils ne pouvaient pas contrôler et que donc la marque avait décidé d'en finir avec la fourrure, qu'on n'aurait plus à revenir et que donc voilà que j'allais recevoir en tant que responsable du collectif un communiqué de presse de la part de la marque confirmant cette information. Et finalement, il n'en a pas du tout été question. J'ai plutôt reçu une information contraire disant que la marque n'avait pas l'intention de communiquer sur ce sujet. Et pour cause, la nouvelle collection, donc automne-hiver, contient toujours de la fourrure chez Koukaï. Donc on continue tous les mois, on ne baisse pas les bras, on espère finir par y arriver, tout comme avec Morgane. Et les autres marques, et dès qu'on en aura fini avec Koukaï, on pourra aller manifester devant d'autres enseignes. C'est pas ce qui manque, malheureusement.
D'accord, donc pour l'instant, une manifestation par mois, oui. Ouais. Organisée devant Koukaï,
Ça se passe à Paris, oui, Paris 1er, donc place Sainte-Opportune à Châtelet-Léal.
Et donc pour retrouver toutes les informations du collectif
Alors, il faut consulter le blog Société Antifourrure, qu'on trouve sur Google, et la page Facebook de Société Antifourrure, où toutes les informations sont postées régulièrement.
Voilà, très bien. Est-ce que tu aurais d'autres sites pour des gens qui voudraient aller plus loin sur cette question de la fourrure à conseiller ?
D'autres sites ?
Des sites divers et variés
En fait, il y a plusieurs associations aussi. Il n'y a pas que Société Antifourrure. Il y a aussi l'association Fourrure Torture, qui a beaucoup de renseignements concernant la fourrure.
Oui, qui sont aussi reliés avec l'international. Enfin, ils publient des enquêtes.
Par exemple, avec l'Antifur Coalition. Voilà. Mais en fait, l'Antifur Society aux États-Unis aussi, est aussi avec l'Antifur Coalition. Et donc, la personne responsable de Fourrure Torture, donc le site Fourrure Torture est très très intéressant, justement, contient beaucoup d'informations importantes pour les gens qui voudraient en savoir plus sur la fourrure.
Oui, parce que ton collectif à toi est essentiellement concentré sur justement faire reculer au niveau des marques.
Alors ça, oui, c'est la campagne France sans fourrure.
Voilà.
Tout à fait. Ensuite, on encourage aussi les gens, les membres du collectif, les gens, les militants qui viennent manifester à distribuer régulièrement des tracts sur la fourrure.
D'information.
Voilà. Dans les endroits publics, aux gens notamment qui portent de la fourrure, puisque beaucoup ne savent pas forcément que les animaux sont torturés pour leur peau, puisque pour que la fourrure d'un animal reste belle, il faut qu'il ait souffert. Sinon, la peau retombe.
D'accord. Ouais, donc des conditions d'abattage aussi qui sont plus que limites.
Ah, qui sont inacceptables. D'ailleurs, le comité scientifique de l'Union européenne a déclaré que les conditions de vie et de mort des animaux dans tous ces élevages étaient humainement inacceptables.
Et pourtant, en fait, par des humains.
Et pourtant, oui. Voilà. Tout à fait.
On va parler justement. Merci Stéphanie.
Merci.
On va parler justement de la façon dont on considère les animaux. Et aujourd'hui, j'ai choisi un auteur, un romancier, un essayiste, Milan Kundera, pour montrer que la question animale, c'est une question qui, bien sûr, est défendue par les militants de la cause animale, mais pas seulement, aussi de grands auteurs, des personnalités reconnues dans des domaines divers, ont pris position ont questionné notre société sur ce rapport aux animaux. Alors Milan Kundera, hein, il est connu puisqu'il est romancier, essayiste, c'est un écrivain français d'origine tchécoslovaque qui est né en 1929 et qui a reçu de nombreux prix pour son œuvre. Il est connu pour son opposition au totalitarisme, hein, il vivait en Tchécoslovaquie et a connu le néo-stalinisme, la censure, l'exil vers la France en 1975. Et il a un regard critique sur notre société de consommation qu'il a découvert justement en arrivant en France et puis dans les années qui ont suivi. C'est un fervent défenseur des droits de l'homme, mais il n'oublie pas pour autant les animaux. Et donc je vais le citer. La vraie bonté de l'homme ne peut se manifester en toute pureté et en toute liberté qu'à l'égard de ceux qui ne représentent aucune force. Le véritable test moral de l'humanité, ce sont les relations avec ceux qui sont à sa merci, les animaux. Donc voilà un auteur engagé, comme on a pu le voir avec notamment Jonathan Safran Foer aussi, qui est romancier et qui a fait un très bel essai avec son livre « Faut-il manger les animaux ?» qui a fait beaucoup de bruit l'an dernier. Voilà. Donc voilà qui nous permet d'ailleurs d'enchaîner sur l'actualité avec deux livres dont je vais vous parler. D'abord le livre de Michel Turin, qui s'appelle « Halal à tous les étals », qui revient sur les conditions d'abattage des animaux. Avec tout d'abord ce rappel, quel que soit le mode de mise à mort, les animaux souffrent. Seulement cette souffrance, elle peut être plus pire ou moins pire. Or, cette souffrance, elle est encore accentuée lors des abattages qui s'effectuent sans étourdissement. Et Michel Turin, justement, s'est intéressé à cette question de façon tout à fait honnête, en enquêtant sur pourquoi aujourd'hui il y a autant de polémiques autour de cette viande dite halal, hein, qui justement est assez nuancé sur les modes d'abattage. Alors, on peut rappeler déjà que la législation qui émane de l'Union européenne donne obligation aux abattoirs d'étourdir les animaux avant de les saigner. Il existe une dérogation pour les abattages rituels et ces dérogations sont utilisées pour les abattages religieux halal ou kasher. Et dans ce cas, l'animal n'est pas étourdi. Pour les abattages sans étourdissement, ça concerne essentiellement les moutons, à un pourcentage très fort, les bovins. Ils sont amenés dans des tonneaux, enfin ils doivent être immobilisés. Quand on va en enquête, c'est pas forcément ce qu'on voit, mais normalement ils doivent être immobilisés. Pour les bovins, ils sont retournés, la gorge présentée au seigneur SAI, qui leur tranche la gorge de façon à les saigner. Et théoriquement, les animaux sont maintenus jusqu'à leur mort, sauf que dans les circuits actuels d'abattage, pour des raisons de cadence, on peut se rendre compte quand on visite des abattoirs que les animaux sont libérés du piège avant le moment où ils sont morts et donc sont suspendus, encore conscients, se vidant de leur sang, complètement paniqués sur les chaînes d'abattage. Alors, ça concerne l'ensemble de la viande cachère et ça concerne une part importante de la viande halal. Mais tous les pays musulmans ne demande pas à ce que les animaux ne soient pas étourdis. Par exemple, l'Indonésie, qui est un des pays avec la plus forte proportion de musulmans, a donné des instructions à la France, puisque c'est un des pays qui exporte vers l'Indonésie, en spécifiant que les bovins abattus pour l'export peuvent être étourdis avec le matador, donc exactement de la même façon que le standard. Alors, en abattage standard, bien entendu, on n'a pas retiré la panique des animaux dans les abattoirs, on n'a pas retiré le stress et on n'a pas retiré les abattages ratés, les étourdissements ratés qui concernent quand même une bonne partie des animaux Cet abattage ne se fait absolument pas sans douleur non plus, mais c'est vrai que un abattage sans étourdissement, une saignée en pleine conscience est pire que un étourdissement entre guillemets réussi. Donc Michel Turin revient sur toutes ces choses-là et surtout souligne que le marketing de la grande distribution en fait s'est emparé d'une pratique religieuse. Et que ben voilà, c'est les animaux qui trinquent massivement de ce truc-là. Mais si le halal s'est développé autant que ça, c'est vraiment des arguments économiques plutôt que des arguments religieux qui ont primé là-dessus. Et voilà, ça interroge un petit peu notre société sur ces conditions d'abattage qu'on fait vivre aux animaux sans forcément se poser de questions. Alors oui, pourquoi aujourd'hui, quand vous achetez de la viande, en fait, vous avez a priori une chance sur deux de vous retrouver dans votre assiette, dans votre caddie, avec un animal qui a été tué sans étourdissement. Par exemple, dans l'abattage cachère, pour les bovins, les religieux ne prennent que l'avant de l'animal, donc tout l'arrière part de toute façon dans le circuit. Et puis, quand on a démarré une chaîne d'abattage le matin avec des abattages sans étourdissement, il est plus facile de finir la journée de la même façon. Donc voilà, ce sont les animaux qui trinquent davantage en fait de cette paresse humaine, de cette rentabilité qu'il faut maintenir. Et puis un deuxième ouvrage qui est paru en même temps, un ouvrage d'Émeric Caron qui est chroniqueur dans On n'est pas couché et qui vient de sortir le livre Nostec aux éditions Fayard. Un livre que je vous recommande, qui est vraiment bien écrit, bien expliqué, le pourquoi du comment. Lui est végétarien et qui a mené une enquête en fait qui a duré un bon moment pour essayer de nous montrer toutes les implications de notre consommation de viande, de produits d'origine animale. Comment on obtient le steak qu'on a dans notre assiette, qu'est-ce que ça implique au niveau des conditions de vie des animaux, bien entendu, mais aussi au niveau du partage des ressources en eau, au niveau de la pollution, etc. Et Émeric Caron nous emmène tout au long de son livre à découvrir cet univers de l'industrie agroalimentaire qu'on avait déjà entrevu avec, par exemple, Fabrice Nicolino et son livre Bidoche, ou justement le Jonathan Safranfer, Faut-il manger les animaux ? Là, Nostec, il est concentré sur la France, on ne pourra pas l'accuser d'être américain lui-même. Et donc, voilà, un roman fort bien écrit, on se laisse emporter très rapidement par son écriture. Et donc, voilà, n'hésitez pas à le commander.
Thank you. tortures, they are due.
Shadows of Their Souls, toujours tiré de la bande originale du film de Jérôme Lescure, ALF, Animal Liberation Front, une musique originale de René Marc Guini avec les paroles de Tribunal Animal, le film que vous pouvez toujours voir sur les écrans, sur certains écrans de cinéma, en allant vous renseigner sur alf-lefilm.com. Je vais passer maintenant à la partie agenda qui va me permettre de parler un petit peu des actions qui vont avoir lieu dans les semaines qui viennent et revenir sur quelques campagnes menées par L214, notamment sur la campagne Monoprix, une campagne qui tente d'attirer l'attention sur les conditions d'élevage des poules pondeuses avec... Voilà, on essaye de s'adresser à une enseigne en particulier de façon à essayer de faire bouger la France. La France, elle est très en retard sur à peu près tout ce qui touche à la protection animale. On peut le voir, par exemple, on l'a vu tout à l'heure avec les élevages d'animaux à fourrure qui sont interdits dans certains pays d'Europe, mais pas en France. On en avait parlé au mois de décembre avec Muriel sur le foie gras, avec ses infractions à la réglementation, et puis une production de foie gras qui est massive en France, alors que c'est une production qui est interdite dans la plupart des pays européens et même dans le monde, une chose peu pratiquée, mais qui est pratiquée en France. Et donc en France, on a aussi cette particularité d'avoir des élevages de poules pondeuses en batterie. Ça représente 37 millions de poules pondeuses qui sont ainsi enfermées dans des cages exiguës, des cages où chaque poule a à peu près la surface d'une feuille A4 et où elles sont dans des cages qui peuvent contenir entre 5 et 60 poules pondeuses. Donc là aussi, comme pour les lapins, des conditions de promiscuité assez fortes, donc avec des agressions entre les poules pondeuses, avec une lumière réglée au poil pour qu'elles pondent des œufs massivement, mais qu'elles ne s'agressent pas trop entre elles. Mais elles ont été débéquées à la naissance. Donc pourquoi on parle des poules pondeuses ? Parce qu'en fait, les mâles, eux, ont été éliminés dès la naissance, puisque quel que soit le mode d'élevage après, que les poules pondeuses soient enfermées dans des cages, qu'elles soient élevées avec un accès au plein air, ou qu'elles soient élevées selon le mode biologique, les mâles ne font toujours pas d'œufs. Oui, même en bio, les mâles ne font pas d'œufs. Et donc, sont éliminés dès la naissance au couvoir. Et donc, c'est 50 millions de jeunes poussins qui finissent soit à la broyeuse, soit à la gazeuse. Ensuite, effectivement, le mode d'élevage se sépare en quatre grandes catégories qu'on peut reconnaître avec soit les codes sur les œufs, soit la mention sur l'emballage qui est obligatoire. Mais bien sûr, quand on parle du mode d'élevage en batterie, ce code est écrit en beaucoup plus petit. On mettra en avant, par exemple, l'œuf de plein air, on mettra en avant les oméga 3, on mettra en avant tout un tas de choses qui n'ont aucun rapport avec la qualité finalement des œufs, puisque même les œufs de poules élevées en plein air, ce sont des œufs frais qu'on vous vend et pas des œufs pourris. Donc nos poules pondeuses soit passent un an dans des cages exiguës sombres et entassées les unes sur les autres, hein, elles sont 16 par mètre carré, soit elles sont en élevage au sol, ça représente 3% des élevages en France aujourd'hui. 3% de ces poules pondeuses donc qui sont élevées dans d'immenses hangars où elles sont 9 par mètre carré. Alors elles ne sont pas dans des cages mais elles n'ont pas accès à l'extérieur. Et puis ensuite vous avez un pourcentage de 17% qui se partage aussi avec le bio, mais là aussi le bio c'est 3% en croissance, mais toujours un faible pourcentage, mais en commun pour ces deux modes d'élevage, donc plein air et bio, un accès à l'extérieur pour les poules pondeuses. Donc aujourd'hui, on essaye en France de rejoindre le niveau au moins de nos voisins européens tels que la Belgique. Aujourd'hui en Belgique, vous ne trouverez plus d'œufs de poules élevées en cage dans les rayons des grandes surfaces, au rayon œufs coquilles, et même dans les préparations, de plus en plus d'entreprises renoncent aux œufs de poules élevées en batterie. Et en France, aucune grande surface n'a pris la décision de supprimer les œufs de poules élevées en cage de leurs rayons. Donc après une campagne générale de notre association, nous nous sommes concentrés sur une enseigne, l'enseigne Monoprix, pour tenter de les convaincre de retirer les œufs de batterie de leur rayon. Et donc nous avons des actions dans toute la France où on va à la rencontre de la clientèle pour les informer justement de cette vente d'œufs de poules élevées en cage. Et les faire signer des cartes pétitions que nous remettons ensuite à la direction générale de Monoprix. Pour l'instant, c'est plus de 25 000 cartes qui ont été renvoyées et des négociations qui vont bon train, des discussions qui vont bon train. Monoprix a déjà fait un premier pas en septembre dernier en retirant les œufs de batterie de leur marque distributeur, donc les œufs estampillés Monoprix, dans 30 de leurs magasins du bassin lyonnais. Or, le bassin lyonnais, ça va évidemment sur Lyon, mais ça va jusque Oyonnax, par exemple, dans l'Ain. Donc, voilà, un premier pas qu'on aimerait voir se concrétiser déjà à l'ensemble de la France. Et puis, on aimerait vraiment un engagement de cette enseigne à ne plus vendre du tout d'œufs de poules élevés dans des cages. On en a largement la possibilité aujourd'hui en France. Et donc, voilà, donc... on les encourage fortement. Donc les actions, vous pouvez les trouver sur le site internet de L214, L214.com, dans la rubrique Agir Agenda. Dans l'agenda, vous avez toutes les actions. Et donc, je vais vous parler aussi des prochaines actions prévues. Le 3 mars, notamment, un grand événement. Réservez bien cette date, ce sera à la fin du Salon de l'Agriculture, le dernier dimanche du Salon de l'Agriculture. L'association Novicen, qui est cette association qui se bat depuis plus d'un an maintenant, depuis un an et demi, contre l'implantation d'un élevage de 1000 vaches autour de chez eux. En fait, l'association s'est créée suite à ce projet et ils se défendent... bec et ongles pour ne pas voir apparaître ce type d'élevage. Élevage de 1000 vaches en France, ça s'est encore pas vu. Donc ce serait 1000 vaches enfermées dans un bâtiment à produire du lait avec leurs 750 veaux et génisses qui sont leur suite, hein, puisque pour qu'une vache ait du lait, il faut faire naître des veaux à peu près chaque année. Donc voilà, une mobilisation très importante le 3 mars. Novicen donc fait cette manifestation pour protester contre ce projet, mais plus vastement contre tous ces projets qui vont dans le sens du pire, c'est-à-dire enfermant toujours plus d'animaux dans des bâtiments de plus en plus grands. Donc bien sûr pour les animaux c'est une véritable catastrophe, mais ils sont déjà dans des conditions d'élevage, notamment en élevage intensif, qui sont qui sont assez phénoménales, mais ces projets, il y a un projet d'élevage de poules pondeuses à Branges, là aussi, où ils essayent de construire un élevage gigantesque. Il y a des projets d'élevage de porcs, des extensions de porcheries qui sont aussi très importants. Et donc cette manifestation, ce sera la manifestation vraiment contre l'élevage industriel. Elle commencera à 13h30 devant la gare Montparnasse. Et s'achèvera devant le salon de l'agriculture où tous les manifestants feront entendre leur voix pour dénoncer justement cette vitrine qu'est le salon de l'agriculture, qui n'a aucun rapport avec ce qui se passe dans les élevages, dans ce qu'on peut voir. Là, ce sont des animaux qui sont présentés, qui sont pomponnés, mais qui voilà, dans les élevages on n'a pas que des élevages de plein air, alors que si vous vous déplacez par exemple dans la partie qui est consacrée aux oiseaux, vous avez l'impression qu'il y a que de l'élevage plein air, hein. Il y a des grandes marques qui font leur pub et qui communiquent essentiellement sur leur marque plein air. Alors le plein air, c'est pas la panacée pour les animaux encore, hein, mais c'est tout de même moins pire que de l'élevage en cage. Et puis donc ça c'est le 3 mars à Paris, c'est vraiment un événement à ne pas manquer. Et puis concernant l'actualité de l'association L214 qui monte une campagne avec l'association végétarienne de France, le jeudi Veggie, en fait, ce sera lancé officiellement du 1er au 7 avril à l'occasion de la semaine du développement durable. J'y reviendrai dans les prochaines émissions, mais notez d'ores et déjà il y aura cet événement pour essayer de ralentir notre consommation gargantuesque de produits d'origine animale, essayer de constater, d'essayer des nouvelles recettes, de découvrir la cuisine végétarienne quand on ne la connaît pas. Et donc ce sera du 1er au 7 avril, ce sera notamment à Paris et à Lyon. En avril, on en a parlé avec Stéphanie, la manifestation à Imani contre concrètement un élevage de visons. Et puis les 11 et 12 mai, à l'appel du CRAC Europe pour la protection de l'enfance, une manifestation à Alès contre la corrida pour essayer de faire de Alès une ville mobilisée contre la corrida.
Et la prochaine manifestation contre l'enseigne Koukaï aura lieu le samedi 16 février, donc place Sainte-Opportune à Châtelet.
Voilà, ouais. Je ne l'avais pas noté. Toujours au mois de mai, le 18 mai, une manifestation cette fois-ci qui s'adresse aux végétariens, aux végétaliens et aux véganes, qui aura lieu, qui est une manifestation internationale, qui aura lieu en Suisse, à Genève. Alors le 18 mai, c'est la Veggie Pride en elle-même, mais il y aura des événements tout autour de cette date, avec notamment des manifestations devant l'OMS, devant l'ONU. De façon à réclamer des droits, notamment pour les végétariens. On a actuellement plusieurs dossiers en cours où certaines mairies obligent les enfants à avoir de la viande dans leurs assiettes, ce qui bien entendu ne convient absolument pas aux personnes qui ont choisi une alimentation végétarienne, soit par liberté de conscience, hein, parce qu'ils ne veulent pas faire tuer d'animaux, soit par liberté religieuse, ils ont choisi l'alimentation végétarienne parce qu'ils ne peuvent pas ou ils n'ont pas confiance dans la viande halal ou kasher servie dans les établissements. Par exemple, sur la mairie de Strasbourg, les repas végétariens servis représentent 4% de ces repas. Donc il y a vraiment un bafouement des droits en France, notamment avec le décret cantine. Là aussi, je vous invite à aller voir sur le site internet l214.com et sur le site de l'initiative citoyenne des droits des végétariens, de façon à défendre ces droits, qu'on soit végétarien ou pas. On peut comprendre que certains refusent de manger les animaux, la chair animale ou même tous les produits d'origine animale, et avoir cette liberté de pouvoir manger, y compris en collectivité, ce qui n'est pas fait là justement, où ce sont des enfants, notamment la dernière affaire en date, c'est dans une crèche, où jusqu'ici les enfants pouvaient manger végétarien et où ça a été supprimé au 1er janvier sans raison apparente. Donc voilà, le 18 mai à Genève, cette Veggie Pride. Et puis dans la même perspective, le 15 juin, la marche pour la fermeture des abattoirs. Alors là, pour nous faire réfléchir, en fait, nous faire réfléchir sur cette morale qu'on a en commun, qui est on ne doit pas maltraiter et tuer sans nécessité. S'interroger sur ces plus de 1000 milliards d'animaux qui sont tués chaque année pour la viande, alors que pour la viande ou les produits d'origine animale, alors que manger des produits d'origine animale, boire du lait, n'est absolument pas une nécessité. Et on a vraiment un gros travail à faire en France de ce côté-là, puisque le PNNS aujourd'hui ne reconnaît absolument pas ces régimes alimentaires, alors que au niveau international, ils sont reconnus notamment par l'association canadienne et américaine des diététiciens, qui regroupe plus de 50 000 professionnels de santé et qui ont conclu que les régimes végétariens, donc y compris les régimes végétaliens, sont adaptés à tous les âges de la vie, pourvu qu'ils soient bien menés. Mais de toute façon, pourvu qu'ils soient bien menés, ça regarde tous les régimes alimentaires, quels qu'ils soient. Donc voilà. Eh bien, je conclus cette émission et je vous invite à nous retrouver le 26 février pour une émission consacrée cette fois-ci aux vaches laitières. Merci à tous.
Terminé.
Bonjour voisin, comment ça va? Depuis 10 ans qu'on habite là, c'est la première fois qu'on se voit. Bonjour voisin, c'est ma foi vraie, 10 ans qu'on vit sur le même palier, sans même une fois se rencontrer. Faut dire que sans s'être jamais croisé, on se connaît un peu quand même, avec ses cloisons en papier mâché, et votre chambre qui donne sur la mienne. Ce qui est un peu gênant, c'est la télé, surtout quand on n'est pas sur la même chaîne. Bonjour voisin, comment ça va? Depuis 10 ans qu'on habite là, c'est la première fois qu'on se voit. Bonjour voisin, c'est ma foi vraie, 10 ans qu'on vit sur le même palier, sans même une fois se rencontrer. Faut dire que j'ai un drôle de métier, quand vous partez, je m'en retourne, tantôt de nuit, tantôt de matinée, les machines, il faut que ça tourne. Je ne vois pas tous les jours mes enfants, mais faut pas se plaindre, allez, on va de l'avant. Bonjour voisin, comment ça va? Depuis 10 ans qu'on habite là, c'est la première fois qu'on se voit. Bonjour voisin, c'est ma foi vraie, 10 ans qu'on vit sur le même palier, sans même une fois se rencontrer. Faut dire qu'on sait plus bien où on en est, à quel saint vouer ses prières, mais nous du moins, on a la liberté, entrez donc prendre un petit verre. J'ai là un petit blanc qui est pas piqué, nous avons des amis dans les corbières. Non, non, voisin, je ne peux pas, ça sera pour une autre fois, le jour de l'an, ou bien le jour des rois. Au revoir, voisin, on se reverra à Pâques ou à Saint-Nicolas, dans ce bas monde, ou bien dans l'au-delà.
En Ile-de-France,
en Ile-de-France,
vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM sur 98FM.
Du 20 janvier au 17 février 2013, 10e édition de l'hiver musical de Saint-Leu-la-Forêt. Musique française, Deux temps forts, le 9 février à Saint-Leu, à 15h, le Requiem de Gabriel Fauré et In Paradisum, une création de Denis Dufour. À 18h, Vie et Passion, Georges Sand, Frédéric Chopin, avec Brigitte Fossé. À 20h30, concert anniversaire surprise. Les 16 et 17 février à Saint-Prix, conférences et concerts autour de la marquise de Montgeroux. Réservation 06 88 86 16 15 hivermusical.org.
24h sur 24, 7 jours sur 7, 98 FM, IDFM.